Bonsoir et Moadim Nesimcha. Bon, le sujet de notre intervention sera d'une navrante banalité. Nous allons dire que des choses déjà connues. Donc si vous êtes fatigué, c'est le moment de prendre un peu de sommeil. Je ne serai pas vexé. J'ai pris comme thème Gog et Magog, la guerre des Magog, et la raison pour laquelle j'ai pensé que ce thème était d'actualité, c'est tout simplement parce que nous devons une fière chandelle et de profonds remerciements à l'UNESCO qui a rétabli la centralité d'Israël dans l'actualité. Ça fait déjà un certain temps, depuis quelques années, qu'on se demandait si on était vraiment au centre de l'humanité, si, étant donné que l'actualité s'occupait de tas d'autres choses, et on était un peu vexés, nous qui sommes le centre du monde, de ne pas être au centre de ce qui se passe dans l'histoire. Et Baruch Hashem, l'UNESCO a rempli son rôle et a rétabli la centralité d'Israël, ne serait-ce que par le fait que un des mensonges les plus flagrants de l'humanité, d'ailleurs personne ne s'y trompe, je pense que tout le monde est conscient du mensonge des décisions, de la récente décision de l'UNESCO qui consiste à nier tout rapport entre la chrétienté et Jérusalem, et accessoirement le judaïsme et Israël. Donc tout le monde le sait très bien. Mais ce qui est important, c'est l'énormité du mensonge et que ce mensonge énorme, donc qui pourrait figurer dans le livre de Guinness, concerne justement le point central de la géographie spirituelle du monde, qui est Jérusalem. Donc c'est très important. Ça veut dire que si l'humanité organisée avec ses institutions considère que le moment est venu de mentir à propos du centre du monde, c'est donc que quelque chose est en train de se produire dans le centre du monde, et nous avons le privilège de participer à ces événements. Voilà. Donc cet événement, en fait, a un nom dans la tradition. Ça s'appelle la guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire qu'en aboutissement de l'histoire, selon les prophètes, il est question d'une sorte de conflagration universelle qui a pour centre Jérusalem, et dans laquelle sont impliquées la majorité des nations et également le peuple d'Israël revenu sur sa terre. Et nous vivons un de ces moments privilégiés de l'histoire, ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Mais attention, il faut tout de suite démythifier ce terme, étant donné qu'il y a beaucoup d'images d'Épinal qui sont liées à toutes ces notions en rapport avec le messianisme et le retour d'Israël. Il faut comprendre que ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, la confrontation entre les nations et Israël, ça répond à une logique interne à ce que Israël est pour l'humanité, ce que l'humanité est pour Israël. Donc on peut dire que c'est dans l'ordre des choses. Je voudrais rappeler ici un texte connu dans Berachot à propos de la sortie d'Égypte, que Manitou citait souvent, un texte qui affirme de manière très claire que lors du retour d'Israël, la sortie d'Égypte sera oubliée. Alors il y a tout un débat pour savoir à quel point elle sera oubliée, mais elle sera oubliée quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de l'histoire où Israël est sorti d'Égypte et ça a enclenché toute une histoire extrêmement mouvementée qui a donné entre autres le christianisme et l'islam au monde. Et ce grand morceau d'histoire, qui dure donc depuis plus de 3000 ans, ce gros morceau d'histoire arrive à sa fin. Il arrive à sa fin, il est remplacé par un nouveau souvenir. Le souvenir de la sortie d'Égypte est mis de côté, et il y a le souvenir du retour d'Israël. N'est-ce pas ? C'est un texte bien connu de Berachot, je crois que nous l'avons étudié dans une des veillées d'Oshana Rabba du Knef, il y a quelques années. Et le Talmud se base sur un verset de Jérémie au chapitre 23, dans lequel il est dit « Inei amim baim neum Hashem, velo yomru otra Hashem, asher elad dene Israël meritim tzraim. » Voici que des jours viennent, parole de l'Éternel, où on ne jurera plus au nom du Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Kim chay Hashem, asher elav, asher evi et zera bet Israël meret safona, mikol haratzot asher idartim sham. Mais on jurera au nom du Dieu qui a fait amener toute la maison d'Israël de tous les pays du monde. » où je les avais dispersés. Ce qui veut donc dire de manière très claire que la fondation de l'État d'Israël est un événement plus important que celui de la sortie d'Égypte, et c'est cet événement dont on commence à se souvenir à partir de maintenant. Mais, bon, ça, c'est, ce passage, je pense qu'il est assez bien connu. Il y a un problème acoustique ou pas? Non, c'est bon, d'accord. Ce texte est connu, mais on connaît un peu, Manitou le commentait souvent, il y a un prolongement du texte qui est moins mis en évidence, c'est une interprétation d'un verset de Yeshaya ou Isaïe. Et là-bas, le prophète va plus loin que Jérémie. Jérémie parle de deux événements, l'un la sortie d'Égypte, l'autre la fondation de l'État d'Israël. Mais le prophète Isaïe parle d'un troisième événement. Quand il est dit Altizkeru Rishonot, Vekadmoniot Altit Bonanu, Hineni Ose Hadasha Ata Titzmach. Ne vous rappelez pas des événements premiers, Altizkeru Rishonot, ni des événements de l'Antiquité, Kadmoniot Altit Bonanu. Pourquoi? Parce que Hineni Ose Hadasha, parce que je vais faire quelque chose de nouveau. Ata Titzmach, qui maintenant va croître. Et le Talmud interprète. C'est quoi les événements premiers dont il n'est plus nécessaire de se rappeler? Et bien, le Talmud nous dit, c'est la fondation de l'État d'Israël, chez Abud Malchuyot, c'est-à-dire la fin de l'asservissement aux nations. Et Kadmoniot, c'est quoi les événements de l'Antiquité qui sont caduques? C'est la sortie d'Égypte. Et parce qu'il y a un troisième événement qui est plus important que la sortie d'Égypte et la fondation de l'État d'Israël ensemble, c'est la guerre de Gog et Magog. C'est ce que dit Rav Yosef dans Brachot, page 13a. C'est-à-dire, Ineni Ose Hadasha Atatitzmar, Tane Rav Yosef, Zomitremet Gog et Magog. C'est-à-dire, il y a un événement qui a une ampleur gigantesque. Vous comprenez de quoi il s'agit. C'est-à-dire, à quel point c'est important. Si c'est simplement le fait d'être sauvé ou d'être libéré d'un conflit armé, ça ne justifierait pas l'effacement du souvenir des événements importants de l'Antiquité. C'est donc qu'il y a quelque chose qui se transforme dans notre identité à partir de ce moment-là. Et ça, c'est la guerre de Gog et Magog. On pourrait dire de manière très simple, peut-être un peu simpliste, que depuis la sortie d'Égypte, nous sommes une religion. Et depuis la fondation de l'État d'Israël, nous sommes une nation. Et avec la guerre de Gog et Magog, nous devenons le centre du monde. C'est-à-dire que nous avons un message universel qui se manifeste. Effectivement, quand vous lisez dans les textes des prophètes, qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat de la guerre de Gog et Magog? Eh bien, c'est comme dit le prophète Ézéchiel, « Vid gadilti, vid kadishti, vnodati, lene amim rabim, viyadou kani Hashem. Je serai grandi et sanctifié aux yeux de nombreuses nations qui sauront que je suis l'Éternel. » C'est-à-dire qu'il y a une finalité universelle à cette conflagration universelle, et c'est le déclenchement de cette dynamique que nous vivons depuis plusieurs années en Israël. Et je voudrais, pour bien comprendre de quoi il s'agit, me référer à un texte du Midrash que nous allons étudier ensemble. Voilà. Le texte du Midrash, c'est dans le Shocher Tov. Shocher Tov est un des Midrashim sur le livre de Tehillim. Et il fait allusion, ce texte du Midrash, à ce qu'on appelle non pas la guerre de Gog et Magog, mais les guerres de Gog ou Magog, Milchemot Gog ou Magog. En effet, le Midrash est amené à considérer qu'il y a plusieurs guerres de Gog et Magog, parce qu'il y a plusieurs descriptions de cette guerre dans les prophètes, et que ces descriptions ne sont pas équivalentes. Et donc, il est question, en fait, de trois guerres. Où est-ce qu'on a trouvé trois guerres? Effectivement, dans le Hallel, ça se trouve en toutes lettres, quand vous dites « Kol goyim sevavuni », toutes les nations m'ont entouré. Et cette expression « Kol goyim sevavuni » revient trois fois. « Kol goyim sevavuni beshem Hashem ki amidam »« Au nom de Dieu, je les fracasse ». Et puis après, non, c'est ça que ça veut dire. Après, Sabuni Gam Sevavuni Beshem Hashem Kiamilam, il me réentoure et à nouveau je les fracasse, au nom de Dieu. Et puis après, Sabuni Kidvorim Doahu Keshkotsim, ils m'ont entouré comme des abeilles et ils se sont éteints comme un feu d'épines. Beshem Hashem Kiamilam, au nom de Dieu, je les fracasse. Et donc, s'il y a écrit trois fois que les nations viennent nous entourer, C'est donc qu'il y a trois guerres de Gog et Magog. C'est comme ça que c'est interprété par le Midrash. Alors, ce Midrash a été déjà lu, évidemment, par nos maîtres plusieurs fois, entre autres par le Rav Menachem Mendel Kasher, l'auteur du Torah Shlema, qui vivait à Jérusalem au XXe siècle, qui a écrit une œuvre monumentale, le Torah Shlema, et qui, sur la base de ce Midrash, a pensé, dans un petit livre qu'il a écrit, que la guerre de Kippour était la troisième des guerres. Mais en fait, il s'est trompé, mais on va comprendre pourquoi. Je voudrais vous lire donc le texte en hébreu et avec traduction quasi simultanée. Kol goyim sevavuni, toutes les nations m'ont entouré. Gimel pe'amim, c'est trois fois. Atid Gog u Magog la'alot l'Yerushalayim, Gog et Magog monteront contre Jérusalem. Kederer she'ala Sanhériv l'Eret Israël. De la manière où Sanhériv était venu contre Eret Israël, ou derer she'ala Nebuchadnezzar l'Yerushalayim, et comme Nabucodonosor était venu à Jérusalem, Shalosh pe'amim, trois fois. C'est-à-dire, on peut dire qu'il y a une constante. Le conflit avec les nations se fait en trois phases. C'est pas simplement, si vous voulez, un travail de devin que fait le Midrash. Il y a une logique intérieure pourquoi ça doit se faire en trois phases. Pam Rishon ou Omer, lors de la première fois, il est dit Kol Goyim Sevavuni, toutes les nations m'ont entouré, Sheo Atid Lichnos Kol Haolam, parce qu'il. Dans l'avenir, il réunira le monde entier. Uleha alotam l'Yerushalayim et les amènera à Jérusalem. Sheneemar, ainsi qu'il est dit, Veneesfu elav goyim rabim vechol haparasha. De nombreuses nations s'assembleront autour de lui et tout le reste du texte. Vehemma paruchin, mais ils sont fracassés. C'est pour ça qu'il est dit Beshem Hashem ki amilam. Alors, d'où vient ce verset Veneesfu elav kolagoyim? Il vient du livre de Zacharie, Zecharia. Ce qui veut dire donc que la première des trois phases de la guerre de Gog et Magog, c'est celle qui est décrite dans le livre de Zecharia. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Zecharia? Ben, Zecharia nous explique au chapitre 14. Comment cette guerre va être menée? Et cette guerre est décrite dans le chapitre 14, qui est lu comme Haftara lors de la fête de Sukkot. Ce qui fait que toutes les personnes qui ont été à la synagogue ont entendu le texte, parce qu'il est interdit de dormir en dehors de la Sukka. Et donc ils ont écouté la Haftara. Et que nous dit la Haftara? Elle dit « Hine yomba l'Hashem v'chulak shelaler bikirber » Voici qu'un jour viendra où ton butin sera distribué en ton sein. Venilvu goyim, non pardon. Ve'asafti et kol agoyim al Yerushalayim la milchama. J'assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour la guerre. Venil keda ha'ir et la ville sera prise. Ve'yatsa chatzi ha'ir bagola, la moitié de la ville sera exilée. Veyeter ha'am lo yikaret minahir, et le reste du peuple ne sera pas ôté de la ville. C'est-à-dire que ce que nous annonce le prophète, c'est que la première des guerres qu'Israël aura à mener lors de son retour sera une guerre qui amènera comme résultat la division de Jérusalem. C'est écrit en toutes lettres dans les prophètes. Bon. Que le prophète nous donne des détails, c'est intéressant, mais pourquoi est-ce qu'il a jugé nécessaire? Comment est-ce que le prophète il savait tout ça, lui? Nous, on sait. Ça s'est passé en 1948, la première des guerres. Jérusalem a été coupée en deux. D'accord, mais le prophète, lui, d'où est-ce qu'il sait ça? Vous allez me dire, mais c'est très simple, il est prophète. Donc c'est pour ça qu'il est payé, pour être prophète. Donc il doit savoir que c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, c'est une mauvaise réponse, parce que quelle est la logique de la prophétie? Pourquoi est-ce que la prophétie nous annonce la division de Jérusalem? On peut dire, c'est quelque chose d'assez classique, c'est que, étant donné que Jérusalem, c'est la caisse de résonance de ce qui se passe dans le monde, et en particulier de ce qui se passe dans le peuple juif, s'il y a une division au sein du peuple juif, il y a une division au sein de Jérusalem. C'est le reflet, si vous voulez, automatique de l'état d'esprit des enfants d'Israël. Jérusalem est divisée parce que les juifs sont divisés. Et comment est-ce que nous savons que les juifs sont divisés? Ben, on le sait très bien, en 1948, il y a eu 3 tentatives différentes de s'emparer de la vieille ville, une par le nord, une par le sud et une par l'est, par l'ouest, pardon. L'une menée par le Lehi, l'autre par la Haganah, l'autre par le Hetzel. Donc ça veut dire qu'il y avait 3 armées chez les juifs. Quand il y a 3 armées, c'est qu'il y a la division. S'il y a 3 divisions, il ne peut pas y avoir de libération de Jérusalem. Mais d'où est-ce que le prophète, lui, il savait que ça serait comme ça? Comment est-ce que la prophétie savait à l'avance que les juifs seraient divisés? Vous allez me dire, ben c'est normal, puisque ce sont des juifs, ils sont divisés. Mais en fait, il y a quelque chose de plus fort. Le retour d'Israël se produit après un très long temps. On a l'habitude de dire 2000 ans, c'est pas précis, mais le retour d'Israël se produit après longtemps. Et les Juifs sont dispersés pendant ce long temps. Comme ils sont dispersés, ils se différencient l'un de l'autre. Comme ils se différencient, il est normal qu'il y ait la division. Donc le prophète sait à l'avance qu'il y aura une division chez les Juifs. Il sait donc à l'avance que Jérusalem sera divisée. Mais ce n'est pas si simple que ça. De quelle division s'agit-il? Il y a une division profonde au temps du retour d'Israël, c'est la division, il y en a plusieurs, mais l'essentiel, c'est entre ce qu'on appelle les datiim et les chilonim, les religieux et les laïcs. Il y a 2 formes, disons, qui se présentent comme étant la légitimité de l'identité juive, une qui vient au nom de la religion, une qui vient au nom de la nation, et il y a un affrontement entre les deux. Ces deux identités ont un nom. Chez les prophètes, ça s'appelle Yaakov et Israël. Par la suite, intervient la deuxième guerre. Pam Sheniyahu Omer, la deuxième fois, il est dit, Sabuni Gam Sevavuni, ils m'ont à nouveau entouré. Shewatid Lehargish Kol Ha'umot ou Leha'alotam Lirushalayim. Il va remuer toutes les nations et les amener à Jérusalem, chez Néhémar, ainsi qu'il est dit. Et là, vous avez une deuxième description de la guerre de Gog et Magog, dans le livre de Tehilim, au chapitre 2. Ainsi qu'il est dit, « Lama rageshu goyim » « Pourquoi les nations sont-elles émues ?»« Vehem paruchim » « Et ils seront fracassés »« Lechach Néhémar beshem Hashem ki amilam pam sheniya » C'est quoi cette histoire, donc, de la deuxième guerre? Si vous lisez le texte dans Tehilim, au chapitre 2, vous verrez qu'il est question là-bas de la conquête de l'ensemble du pays d'Israël. C'est-à-dire, le résultat de la deuxième guerre, c'est la réunification de Jérusalem. Nous avons un goût de déjà-vu. Nous savons qu'il y a eu effectivement une autre guerre pendant le temps du retour d'Israël qui a eu pour résultat la réunification de la ville. Tout ça, pour l'instant, c'est le Midrash, n'est-ce pas? Pourquoi cette réunification a été possible? Parce qu'il y a eu, 3 semaines avant la guerre des 6 jours, le premier gouvernement d'union nationale en Israël. Donc les Juifs ont été capables de s'asseoir ensemble, et donc Jérusalem a été conquise. À nouveau, on peut dire qu'il y a ici une réconciliation très profonde entre Yaakov et Israël. C'est-à-dire que, alors que la guerre de 1948 était la victoire du sionisme laïque contre la définition religieuse classique du judaïsme, c'est-à-dire d'Israël contre Yaakov, ce qui s'est passé lors de la guerre des 6 jours, il y a eu un événement qui a beaucoup choqué les consciences. Il y a eu un événement biblique réalisé en pleine modernité par un tsahal laïque. Ce qui a posé énormément de problèmes, aussi bien aux religieux qu'aux chilonim. Les religieux n'étaient pas du tout prêts à ce que des soldats non religieux fassent le travail d'Akadosh Baruch Hu, et les chilonim n'étaient pas du tout d'accord, ils ne s'attendaient pas du tout à réaliser un idéal des prophètes et tout ce que ça pouvait représenter. Disons que ça a posé un problème, et depuis la société d'Israël est en train de se chercher. C'est-à-dire que depuis la guerre des 6 jours, il y a eu des mouvements centrifuges et centripètes. Le mouvement centripète, c'est la synthèse qui s'est réalisée entre Yaakov et Israël. C'est ce qu'on appelle les mitnachalim, c'est-à-dire les datim lioumiim qui ont décidé de prendre la relève du sionisme laïque et de dire, voilà, ben c'est nous qui réalisons ça, ce qui a créé donc des mouvements centrifuges, d'opposition de part et d'autre, de la part des religieux qui ne voulaient pas renoncer à leur chérédisme et des chilonim qui ne voulaient pas renoncer à leur cosmopolitisme qui est devenu du gauchisme. Et donc, c'est un peu ça qui se passe. Depuis la deuxième des trois guerres, il y a une réconciliation entre Yaakov et Israël. Et puis après, ben, je vais très vite, n'est-ce pas? Je vais très vite, mais le Midrash nous dit la chose suivante. Sabouni, Pam Shlishit, troisième fois, Omer, il dit. Alors, là je voudrais, avant de lire le texte, vous rappeler l'erreur qu'a fait le Rav Kacher Zichron de Livracha à ce propos. Dans son livre sur la guerre de Kippour, quand il a vu qu'il y avait une très grande guerre, qui menaçait de détruire Israël, il s'est dit, c'est la troisième guerre dont parle le Midrash. Mais il était embêté parce qu'il se dit, cette guerre est grande, mais elle n'arrive pas à Jérusalem. Donc c'est peut-être pas la troisième. Alors il a trouvé quand même une échappatoire, il a dit, oui, mais leur but c'est d'arriver à Jérusalem, donc c'est comme si. Il ne pouvait pas s'imaginer à l'époque qu'il viendrait, qu'il y aurait une remise en question de la souveraineté d'Israël sur Jérusalem, un jour. Alors aujourd'hui, ça ne pose plus problème, donc nous comprenons que nous sommes dans la troisième phase, mais regardez ce que dit le Midrash de cette troisième phase. « Parm shelishit omer, lors de la troisième fois, il est dit, « Sabouni kidvorim, ils m'ont entouré comme des abeilles. » Mais le Midrash semble lire le mot « dévorim » comme s'il était écrit « dibourim », des paroles. C'est-à-dire que c'est une guerre qui se fait par des voies de parole, par des voies diplomatiques. Shehu atid lifros dogmaniot al kol amedinot leotzi karozot. Il va poser des écriteaux et faire des déclarations parmi tous les pays pour amener à une déclaration, Leotzi Karozot. C'est-à-dire, c'est une guerre qui se fait par des déclarations de l'ensemble des nations. C'est-à-dire qu'on passe ici à un troisième stade, Kema de Atamart, ainsi qu'il est dit, Kirou Zot Bagoyim, appelez cela parmi les nations, Kadeshu Milhama, sanctifiez la guerre. Vechol Aparasha, et tout le reste du chapitre, Vehema Paruchin, ils seront fracassés, tout finit bien comme dans les bons westerns, Lechach Nehemar, Beshem Hashem, Kiamilam, Pam Shidishit, c'est pour ça qu'il est dit, au nom de Dieu, je les fracasse dans la troisième fois. C'est-à-dire que, d'après le Midrash, la nature de la troisième guerre n'est pas une nature militaire. Il y a probablement un élément militaire, mais ce n'est pas le centre de ce qui se passe. Parce que, à partir de ce moment-là, la lutte contre Israël devient une lutte d'ordre moral. Elle se fait au nom de valeurs. Et c'est au nom de certaines valeurs qu'Israël est remis en question et que son emprise sur Jérusalem est délégitimée. D'accord ? Bon, et ça fait passer, non pas de Yaakov à Israël, qui sont déjà réconciliés d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une sorte d'interpénétration de la Torah et du sionisme, c'est la phase universelle. C'est-à-dire, nous vivons un temps de l'histoire où nous vivons ce qu'on appelle le globalisme. Il y a une tendance dans la culture universelle de nier le rôle des nations pour passer à l'humain en tant qu'humain. Et donc, la chose à dissoudre, c'est Israël. Israël qui est un cœur des nations, et c'est ce cœur qu'il faut dissoudre. Ce qui explique ce qui se passe dans les décisions actuelles. Et donc, nous ne sommes pas loin probablement de toute une cascade de lutte diplomatique et déclarative contre Israël qui fait partie de cette logique. Comment relever le défi? Qu'est-ce qui fait gagner la guerre de Gog et Magog? Eh bien, c'est la troisième phase qui fait passer, après Yaakov et Israël, au troisième élément qu'on appelle Yeshurun. Yeshurun, c'est-à-dire Israël non plus en tant que nation parmi les nations, mais comme cœur de l'humanité. Si vous voulez, c'est la dimension universelle qui est en train de se manifester, et c'est ça qui est en train de se faire. Mais à ce propos, on pourrait se poser une question d'ailleurs posée par le Rav Kook dans son commentaire Enaya sur le traité de Berachot. La question que pose le Rav Kook est une question, si vous voulez, de logique intérieure. Comment est-il possible, comment est-ce que la guerre de Gog et Magog est-elle possible? Elle semblerait absolument impossible. Pourquoi? Eh bien parce que l'humanité a une dette envers Israël. Une grande partie des valeurs morales de l'humanité et des fois fondamentales de l'humanité, des croyances de l'humanité, ont leur origine en Israël. Alors, comment cela est-il possible qu'une humanité qui doit tellement à Israël puisse se révolter contre son bienfaiteur? C'est la question que pose Rav Kook. C'est-à-dire, il est notoire, vous pouvez interroger l'humanité dans son ensemble, est-ce qu'elle doit quelque chose à Israël? La réponse sera positive. Bien sûr, ce sont les Hébreux qui nous ont appris toutes ces choses-là. Alors si c'est eux qui vous ont appris toutes ces choses-là, pourquoi et comment est-il possible qu'il y ait une conflagration universelle? Alors on peut effectivement faire un peu de psychanalyse et dire qu'il y a la recherche du meurtre du père, l'autorité morale qu'il faut renverser et tout le reste. Mais enfin, c'est quand même un peu énorme. Enfin, pour le Rav Kook, c'était énorme. Des choses qui nous semblent énormes, parfois deviennent la réalité. Mais le Rav Kook donne une réponse très importante. Il dit, si je sais pas, vous avez déjà vu un cercle, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu un cercle. Dans un cercle, il y a une quantité impressionnante de points. Je pense, l'infini. Une infinité de points dans un cercle. Mais il y a un seul point qui est le centre. C'est ça, Manitou aussi, vous mettez ça en évidence, que dans un cercle, il y a une infinité de points, mais il y en a un seul qui est vraiment le centre du cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on s'est trompé sur l'emplacement du centre, eh bien, c'est plus le même cercle. Et donc, dit le Rav Kook, tant que ce qui est le centre névralgique de l'humanité n'est pas clair, on ne sait pas où se trouve ce centre, tous les retournements sont possibles. On peut revenir à toute la barbarie antique, on peut revenir au paganisme, on peut revenir au massacre, tant qu'on ne sait pas où est le centre. Et donc le fait que ce soit aujourd'hui le centre qui est remis en question est une chose fondamentale. Ça prouve que le centre est en train de se remettre en place. Il est en réanimation. Et donc il faut être à l'échelle de la grandeur des événements et prendre conscience de la mission universelle d'Israël. Et on ne peut plus aujourd'hui se cantonner simplement dans le fait que nous sommes abrités par l'Occident en tant que bastion avancé de la démocratie. Il y a certainement beaucoup plus que cela à dire au nom du peuple d'Israël. Chag Sameach.